culture d'islam. Culture d'islam par Al Ben Cheikh. Ce matin, nous recevons le préfet Didier Lesky.
Bonjour.
Et Didier Lesky, vous nous faites l'amitié de venir ce matin pour parler de laïcité. Nous n'épuiserons jamais le sujet, mais c'est toujours bon de préciser, expliquer et tenir à ce principe juridique qui n'a pas d'épaisseur idéologique, en principe. Alors, je vous présente très brièvement aux auditeurs. Vous êtes Didier Lesky, préfet, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et vous êtes vous-même à la fois historien et juriste. Vous allez nous être d'un grand secours ce matin pour au moins nous donner votre propre définition de la laïcité, dès lors qu'elle est de nos jours affublée d'une épithète. Les grammairiens disent parfois que tout adjectif affaiblit le substantif. Ben, si elle est, je parle de la laïcité, positive, ouverte, tolérante, bienveillante, inclusive, ça sous-entend qu'il y a des antonymes. Donc elle pourrait être négative, fermée, intolérante ou malveillante.
Vous venez de résumer en quelques mots la difficulté des débats autour de la laïcité. D'abord, il faut se souvenir que ce mot est en réalité d'utilisation récente. Avant, on n'utilisait que l'abjectif jusqu'à la fin du 19e siècle. On parlait d'école laïque, de république laïque. C'est la fin du 19e siècle qu'on a commencé à parler de laïcité. En réalité, je crois que la seule définition possible, assez simple d'une certaine manière à appréhender, c'est de dire que c'est l'inverse du régime de la catholicité, c'est-à-dire de ce régime qu'on connaissait avant la Révolution française, où la vérité de l'Église englobait complètement la vie sociale et la vie de tout un chacun, de sa naissance à la mort, et où celui qui n'était pas croyant dans l'espace public devait reconnaître, en tout cas ne pas mettre en discussion cette prégnance de l'Église catholique. Et je crois que le premier acte fondateur juridique de notre régime de laïcité publique, c'est la laïcisation de l'état civil, c'est-à-dire d'avoir sorti cette trace que tout un chacun a dans les registres de la mainmise de l'Église, qui en a eu, à partir de François Ier, le monopole pour des raisons pratiques, mais aussi pour des raisons idéologiques. La deuxième chose qui est importante, il faut rappeler aussi, c'est la pleine citoyenneté donnée aux Français juifs, c'est-à-dire cette idée qu'on est porteur de droit indépendamment de son identité religieuse, qu'elle soit celle qu'on assume ou celle qui vous est assignée. Je crois que c'est la laïcité, c'est un cadre juridique, il faut en rappeler l'histoire et de manière pratique. Voilà.
Revenons à l'histoire, sa substantivation au féminin comme laïcité, vous le dites si bien, c'est à la fin du 19e siècle. Alors on dit que c'est Émile Littré qui en a parlé la toute première fois dans son dictionnaire de 1871 et dans son addendum de 1877, donc 6 ans plus tard. Alors, c'est construit sur le grec tardif laïkos, qui lui-même s'enracine dans le grec ancien laos, donc une des trois dénominations du peuple.
Voilà, avec cette idée que le peuple doit être guidé par la raison. C'est ça qui est fondamental dans le combat laïque, justement, qui traverse tout le 19e siècle, c'est-à-dire de sortir les hommes de l'emprise du religieux en espérant que leur raison en propre pourra les amener à construire un monde meilleur ici-bas. Voilà, au fond, c'est ça qui a motivé ce combat dont on a oublié qu'il est quand même extrêmement violent. Hein, et les débats qu'on a aujourd'hui, au fond, ne sont pas grand-chose par rapport, par exemple, à la violence qui a été exercée contre l'Église catholique au moment où on interdit aux religieux d'enseigner, où les congréganistes sont obligés de s'exiler. C'est pour ça qu'il est important de repartir, je crois, d'exemples pratiques. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Régis Debray, justement, en partant de ce que disait Jules Ferry, qu'on a beaucoup oublié, mais qui a été pour nous un guide, c'est-à-dire Comment enseigner la morale laïque, disait Jules Ferry, en partant d'exemples pris sur le vif, hein, d'exemples de l'actualité, pour les décortiquer, montrer comment des solutions juridiques peuvent être construites avec cette finalité profonde de notre régime de laïcité, c'est-à-dire d'organiser la paix civile.
Alors, vous avez évoqué Régis Debré tout simplement parce que vous avez coécrit ensemble, Didier Lesky et Régis Debré, ce guide pratique, ce vademécum, la laïcité au quotidien. C'est pour la première fois que les citoyens français, et par-delà, ont à leur disposition ce guide chez Folio. Et vous l'avez fait aussi avec vos qualités d'historien, de juriste et maintenant de directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, mais aussi en votre qualité d'ancien chef du bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur. D'aucuns disent que c'est la loi du 9 décembre 1905 qui a assis les choses, pourtant on n'a jamais parlé de laïcité. Ce régime de séparation a commencé donc au tournant à l'approche du 20e siècle.
Alors, la loi de 1905, c'est un aboutissement qui vient après de nombreuses mesures juridiques de laïcisation, des cimetières, des hôpitaux. La loi de 1905, elle dit deux choses. Elle organise la liberté d'organisation des cultes, et on y reviendra parce que c'est un problème quand on parle justement d'islam, et elle dit que la République se doit de garantir pour tout un chacun la liberté de conscience. Donc c'est une double loi de liberté qui est à la fois un aboutissement et puis le départ de quelque chose qui est la fin du régime concordataire, c'est-à-dire la fin de la mainmise de l'État sur l'organisation des cultes qu'on appelait à l'époque reconnus, c'est-à-dire le culte catholique, les deux cultes protestants et le culte israélite.
Oui, la laïcité, c'est aussi la liberté de conscience. Et le pire des méfaits est un crime de lèse-conscience. Comment peut-on s'imaginer contrainte par la coercition, par la menace ou même par la terreur à ce qui relève d'une adhésion intime et spontanée? C'est aussi la liberté religieuse, croire ou ne pas croire, et surtout pouvoir changer de religion. Criminaliser l'apostasie est en soi criminel. Alors, le culte, à l'époque, peut-être on l'appelait mahométan, le culte islamique, comme ça nous arrimons notre entretien à l'émission elle-même, culture d'islam, n'était peut-être pas présent en force en métropole, mais il était dans les colonies, dans l'Empire.
Bien sûr.
Alors, étonnamment, la loi dite de séparation du 9 décembre 1905 a bénéficié, si je puis dire, d'un régime dérogatoire, notamment en Algérie, dans les départements d'outre-Méditerranée.
Oui, c'est sans doute une des erreurs profondes des républicains après 1905, puisque quand le texte est voté, il y a un article 43 qui dit que le régime de séparation doit être étendu aux colonies. Voilà. Et à partir de 1907, en fait, on va rentrer dans un système de non-application qui va perdurer, hein, et avec des aspects très étrange, si vous voulez, je n'en citerai qu'un seul, c'est que vous venez de parler d'apostasie, les Algériens ressortissaient du droit musulman, et non seulement ressortissaient du droit musulman, mais même la conversion au christianisme, par exemple, ne leur permettait pas de sortir de ce droit musulman. Et on a oublié que, en fait, le culte musulman, dès lors que la France en 1830 s'était engagée à respecter la religion des Algériens, le culte musulman avait été intégré de fait dans le régime concordataire. Il y avait un budget du culte musulman et le culte musulman était rattaché administrativement à l'administration des cultes qui gérait en métropole le régime concordataire et puis après au ministère de l'Intérieur. Et en fait, en 1907, après prolongé en 1917 et puis après ad vitam, hein, jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, la volonté de l'État était de continuer ce contrôle. C'est-à-dire que en métropole, on est pour la pleine indépendance d'organisation du culte et puis en Algérie, on est pour le contrôle du culte musulman. Et on va faire perdurer ce contrôle avec même un budget alors qu'il n'y a plus de budget des cultes en métropole, on va mettre en place un budget spécifique pour continuer à indemniser les imams à la hauteur de ce qui était indemnisé avant quand il y avait le budget des cultes et qui intégrait le culte musulman. Et cette volonté de contrôle du culte, d'une certaine manière, nous l'avons, je dirais presque malheureusement, légué à l'Algérie indépendante qui a continué cette mainmise d'organisation sur le culte musulman. Et peut-être que on a essayé, enfin en tout cas c'est ce qu'on dit les critiques quand l'État a essayé de mettre en place une institution du culte musulman, on a peut-être continué d'une certaine manière à vouloir contrôler quelque chose qui n'a pas de clergé comme on sait, enfin au moins pour les sunnites, et qui a souvent suscité de l'inquiétude.
Oui, sauf qu'en contexte chiite, le clergé est d'ordre académique et pas sacerdotal. Mmh. Et c'est vrai qu'on, dans l'obédience sunnite, il n'y a pas de clergé, en tout cas pas d'autorité centrale. Il y a eu une véritable incurie, encore une fois, au sens premier du terme. Mmh. Je voudrais revenir sur cette idée que l'administration voulait maintenir sous férule politique et coloniale l'exercice du culte. Et c'est ainsi que la tradition religieuse a été domestiquée. Ça a poussé Abdelhamid Ben Badis, président des oulémas, à venir requérir auprès du Conseil d'État pour que la loi de séparation fût appliquée. Eh ben, il a été débouté. Il disait dans un organe central de l'association des oulémas, le météore, il ne nous reste plus qu'à compter sur nous-mêmes et sur Dieu qui, dans un État laïque, avouez-le, est un peu cocasse.
Il y avait une dimension, on l'a oublié, une dimension très matérialiste à la volonté de l'administration de l'État de continuer à contrôler, c'était les biens à bout. Donner l'indépendance au culte musulman, c'était restituer aussi les biens à bout pour lui permettre de vivre. Et l'État n'avait pas envie de cette restitution.
Pour nos amis auditrices et auditeurs, les biens à bout, ce sont les biens de main morte. Quand quelqu'un décède et qu'il ne laisse pas d'héritier, ils vont dans une certaine fondation. Et là, c'est vrai que contrôler le culte, c'est contrôler aussi ces biens-là. Merci Didier Lesky de l'avoir rappelé. Poursuivons maintenant votre ouvrage qui se présente comme, donc je l'ai dit, un guide pratique, un abécédaire. Ça va de A à Z. Et avant peut-être de passer en revue quelques concepts, quelques mots-clés et quelques entrées, qu'est-ce que c'est que cette idée ? Alors que la laïcité se veut un principe de neutralité et on continue à parler d'une incompatibilité irréductible de la laïcité avec le fait islamique. Je ne dis pas l'islam, le mot est un mot valise, mais le culte islamique. Depuis quand le neutre est incompatible, ni compatible d'ailleurs ?
Mais moi, je ne crois pas que le culte musulman soit incompatible avec notre régime juridique de laïcité. Je pense même le contraire. Et en réalité, on fait de manière quotidienne la démonstration que le culte musulman, en tout cas la pratique des fidèles musulmans, peut s'insérer dans ce cadre juridique. Et à partir d'exemples concrets, c'est cela qu'on a voulu montrer. Voilà. Et c'est pour ça, par exemple, vous dites... C'est un abécédaire, on commence par aumônerie, et vous savez que la France est un pays très particulier sur le plan des aumôneries, puisque nous sommes le seul pays à avoir une aumônerie musulmane des armées et de la gendarmerie, une aumônerie en propre, hein, qui est légale des aumôneries catholiques ou chrétiennes historiques, et c'est quelque chose qui est exemplaire, si vous voulez, comme à la fois reconnaissance de l'engagement des Français de confession musulmane dans la défense nationale, la défense de la patrie et la reconnaissance du culte. Et je crois que c'est pas à partir des exemples concrets qu'on peut montrer comment le culte musulman s'insère dans ce cadre juridique. Et justement, l'idée de ce guide, c'est, comme vous dites, de retrouver le neutre, c'est-à-dire de sortir de l'instrumentalisation du mot à des fins politiques et même politiciennes et qui sont parfois des formes de stigmatisation. Nous avons une entrée cantine et il faut rappeler que notre régime est celui qui organise la fraternité et que manger ensemble, par exemple, c'est un acte fraternel essentiel, hein, et que ça s'organise et séparer les enfants autour de la nourriture alors qu'on a les moyens de faire des choses différentes. Hein. On a aujourd'hui des self-service, l'alternative au sport, qui est une pratique très ancienne. Eh bien, remettre ça en cause, C'est dévoyer la laïcité, c'est sortir du neutre, comme vous dites.
Je n'allais pas arriver tout de suite à C comme cantine, mais c'est très bien comme ça. Dès lors qu'il n'y a pas une exigence de la part des familles d'avoir ce que d'aucuns appellent une viande abattue rituellement, la fameuse viande halal, mot qui ne veut rien dire d'autre que licite ou permis, il n'y a aucune raison d'obliger l'ensemble des enfants, en l'occurrence musulmans et juifs, à n'avoir comme plat que la viande porcine. Et ça, ça se fait avec fraternité et intelligence du cœur et de l'esprit. Didier Lesky, quand des concepts comme ça ne sont pas encore précisés, flous, le flou est propice pour le loup, j'ai lu dans votre ouvrage, c'est bien qu'il y ait un investissement à la fois intellectuel, pour préciser les choses, et ça nous en avons besoin, et c'est ce que vous faites si bien dans votre ouvrage, mais aussi de le rendre pratique. Je reviens à A. Après aumônerie, il y a aussi autorisation d'absence. Comment ces choses-là sont-elles un peu gérées? Absence pour motif religieux, j'entends. Là aussi, on laisse place à une certaine latitude, à l'intelligence, où il y a une réglementation.
Écoutez, il y a depuis très longtemps, une réglementation avec une pratique administrative basée sur une circulaire du ministère de la fonction publique, qui s'est après étendue du reste au monde privé, qui autorise les chefs de service à accorder des jours d'absence qui sont en plus des jours supplémentaires par rapport au nombre de jours d'absence légale pour motif religieux, voilà, et qui permet à chacun de pratiquer ces fêtes importantes. Elles sont répertoriées, c'est pas toutes les fêtes, puisqu'on connaît la capacité des religions, d'une certaine manière, à multiplier les fêtes, mais chaque culte a, je dirais, une reconnaissance, comme ça, au-delà de ce qui peut exister de fait dans notre calendrier des fêtes régulières, où la tradition chrétienne reste très marquée. Et donc, je pense que c'est un bon équilibre qu'il faut continuer. J'ajoute même que cette circulaire va au-delà du religieux, puisque par exemple, le 24 avril, qui est la date commémorative du génocide des Arméniens, est aussi possible pour les personnes issues d'une tradition culturelle ou familiale arménienne pour un jour de congé.
Il y a aussi l'idée, dans ce cas, la multiplication des fêtes, nous connaissons les traditions religieuses et leur propension à les avoir. Il y a eu l'idée de fêter la laïcité le 9 décembre et vous dites que c'est peut-être une manière d'oublier son impact et son importance le reste de l'année.
Je pense. C'est-à-dire que, si vous voulez, peut-être que au moment où nous avons écrit ça avec Régis Debray, on pensait au 8 mars, si vous voulez.
Pour la femme, et vous dites aussi à quand une journée à l'égalité homme-femme,
voilà.
Aussi.
Je pense que la laïcité est un cadre juridique et ce cadre, il faut le remplir au quotidien dans la pratique. Voilà. Et ne pas en faire une notion comme ça en surplomb qui n'a pas d'incidence qu'on puisse appréhender de manière pratique.
Alors, continuons à passer en revue votre guide pratique. Je suis toujours à la lettre C. Cimetière, par exemple, qu'est-ce que vous avez préconisé?
Bon, c'est un lieu symbolique où se concentrent beaucoup d'émotions, je dirais, d'affection et de tension. Et on a hérité dans l'imaginaire collectif à la fois de la laïcisation des cimetières et puis de l'idée qu'il y avait des carrés. Il faut se souvenir que ces carrés, c'était des séparations par des murs où, en fonction des confessions, on rentrait dans le cimetière par des portes différentes. Et ça a été un enjeu, je crois, important pour les personnes, les familles de tradition, de confession musulmane, que d'avoir le sentiment que, dans la mort, elles étaient aussi prises en considération pour pouvoir, je dirais, arrêter cette pratique qui était le retour du corps du défunt dans le pays d'origine. Et la manière dont cette prise en considération a été avancée, on a réactivé la mémoire collective du carré. Et on a dit, ah ben voilà, il faudrait des carrés musulmans. Alors, ces carrés peuvent pas être des séparations physiques. Mais l'administration, très tôt, a dit au maire, vous pouvez, parce que vous avez le pouvoir de désignation du lieu de cette culture, organiser des regroupements si les personnes le souhaitent et avec cette idée que le corps doit être tourné vers la Mecque. C'est un compromis qui a ses ambiguïtés, si vous voulez, parce que manifestement, il y a l'idée qu'il faut être ensemble et que la fraternité empêcherait le mélange des corps et des religions, si vous voulez. Il y a quelque chose qui est ambigu. Et en même temps, je crois qu'il faut quand même donner satisfaction à cette demande parce que nous avons un enjeu en termes d'intégration qui est le fait que, d'une certaine manière, les parents des enfants qui vont continuer à être là, des petits-enfants, soit enterré ici, parce que là où on enterre ses morts, c'est là où on s'ancre d'une certaine manière.
Et c'est la patrie, et c'est ainsi que l'amour de la patrie devient réel et effectif. Je puis vous assurer, cher Didier Lesky, que le débat chez les canonistes à propos de l'inhumation des dépouilles mortelles n'est absolument pas une exigence absolue d'être entre soi.
Non, mais
l'essentiel, c'est pour certains, et d'être orienté vers la Mecque. Donc,
oui, bien
ça
sûr.
Peut être dans le diffus.
Mais je crois que pour la République, et c'est un enjeu important que de répondre de cette manière-là, parce que vous le savez que les pays d'origine organisent, des institutions de ces pays d'origine organisent le rapatriement des corps, avec des formes de cotisation, d'assurance, où tout au long de sa vie, le travailleur ou le migrant va payer mensuellement quelque chose, et avec cette garantie que son corps retournera dans le pays d'origine. Et je pense que c'est une violence qui est faite aux enfants qui vont rester ici. Donc c'est une manière de répondre de manière pratique, indépendamment du fait que vous avez raison, les canonistes ne demandent pas absolument que les corps soient séparés.
Oui, bien sûr, même si en nombre ils ne sont pas nombreux, et leur nombre n'est pas important, les Français ayant embrassé tardivement la tradition religieuse islamique, sans venir de nulle part, mais étant ici, je n'utilise jamais le terme de souche, qui reste encore ambigu, eh bien, ils sont sur leur terre et chez eux, ils doivent être aussi inhumés, enfin, s'ils le souhaitent, dans le cimetière communal, là où ils sont. Nous sommes sur France Culture, dans l'émission Culture d'Islam, avec le préfet Didier Lesky, et nous parlons de cet ouvrage fort utile, La laïcité au quotidien, un véritable guide pratique, coécrit avec Régis Debray, chez Folio. Didier Lesky, puisqu'il s'agit quasiment d'un dictionnaire, hein, donc on est à la lettre D, avant même Concordat, au-delà de la formule, on dit que la laïcité est ou serait une exception en France, le concordat est une exception dans l'exception, et l'islam est une exception dans l'exception dans l'exception. Comment pallier ce petit problème?
D'abord, en étant honnête sur ce qu'est notre régime public de laïcité, qui comporte beaucoup d'exceptions en réalité. Hein. Vous parlez du régime concordataire d'Alsace-Moselle, mais on peut aussi parler de la Guyane, hein, où les prêtres, et uniquement eux, catholiques sont pris en charge par le conseil départemental du point de vue de leur salaire. Alors, avec Régis Debray, notre sentiment, c'est que il faut pas forcer l'opinion dominante politique qui existe aujourd'hui en Alsace-Moselle, c'est-à-dire s'il y avait un mouvement de rupture, de volonté de rupture, sans doute on pourrait remettre en cause ce régime concordataire, mais ça n'a pas été fait au lendemain de la guerre de 14-18. Ça n'a pas été fait au lendemain de la guerre de 39-45, c'est-à-dire au moment des fractures importantes et des événements historiques majeurs. Je crois que ça serait ouvrir un front inutile que de le faire. J'ajoute que du point de vue des musulmans, on parlait tout à l'heure des carrés, vous savez justement qu'en Alsace-Moselle, il y a des carrés, des cimetières catholiques protestants. Et c'est d'abord en Alsace-Moselle qu'on a mis en place des lieux, des regroupements, des cimetières musulmans. Hein. Et donc, ce régime a, d'une certaine manière, montré que, parce qu'il n'a pas peur du religieux, d'une certaine manière, il a tout de suite trouvé les moyens d'y intégrer le culte musulman. J'ajoute que la Grande Mosquée de Strasbourg a bénéficié de financements publics directs, comme les autres cultes. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intégration, d'une certaine manière, comme on l'avait fait avant 1905 pour le culte musulman.
Et tout ça dans une volonté d'apaiser, de banaliser. Oui. En réalité, ce sont peut-être même les deux termes. Didier Lesky, restant toujours à la lettre D, donc vous évoquez le dimanche.
Le dimanche, oui.
Comme le repos dominical. Alors, c'est pour peut-être faire taire certaines velléités qu'auraient des citoyens à demander plutôt leur propre jour, même pas férié, mais en tout cas de l'avoir comme jour du repos. Et la nation a besoin au moins de symboles qui les fédèrent.
Oui, pour rappeler aussi que le dimanche devient repos dominical en 1906. Hein, après la catastrophe de Fourvière, et que aujourd'hui, bien sûr, on peut dire qu'il est marqué par la tradition chrétienne, mais il a été réinvesti par les laïcs et par le mouvement ouvrier pour en faire un jour férié, je dirais, pour le rendre assez intouchable, si vous voulez. On a à la fois le mélange de cette tradition chrétienne qui vient de là, et puis la revendication du mouvement ouvrier. Aujourd'hui, les meilleurs défenseurs d'une dimanche, d'une certaine manière, c'est la CGT.
Oui, ça, vous le dites, et ça continue, ce qui n'est pas sans poser certains problèmes au pouvoir public. Si je reviens toujours à cet abécédaire, je ne suis pas nécessairement l'ordre alphabétique, donc je prends au hasard certaines entrées. Vous parlez du... Je laisserai le voile, le foulard, la jupe longue, peut-être un peu plus tard dans l'émission. Mais quand il s'agit des funérailles nationales,
oui,
c'est rendre hommage aux grands hommes de la nation, les hommes et les femmes.
Oui.
Et là, ça doit se passer nécessairement dans un édifice cultuel ou pas, ou c'est selon la confession du défunt?
Écoutez, je pense qu'il y a, du point de vue des pouvoirs publics, une attention particulière à avoir sur cette question. C'est-à-dire que dès lors qu'on considère qu'une personnalité appartient à l'ensemble de la nation, ces funérailles publiques doivent être autant que possible, je dirais, neutres, enfin, ou en tout cas réalisées dans des lieux symboliques où tout le monde puisse se reconnaître indépendamment de son origine confessionnelle, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, du reste. Hein. Et il y a quelque chose à travailler et qui ne l'est pas, et je pense que c'est important. C'est vrai que les grands hommes ne nous aident pas toujours. Hein. La formule de Mitterrand, une messe est possible, a abouti à cette idée qu'il n'y avait que de la messe.
Hein. Oui, ou peut-être apprendre au sens étymologique d'une grande fête ou d'un grand rassemblement, voilà. Peut-être. Mais là, voilà. C'est pour pleurer le décès ou la disparition d'une grande personnalité,
oui,
de la nation.
Mais on peut différencier la cérémonie privée qui peut être religieuse de la cérémonie publique qui peut être dans un lieu public, l'Arc de Triomphe, la place de la République, hein, quelque chose de cet ordre. Quand Léon Blum meurt, on ne fait pas une cérémonie à une synagogue, dans une synagogue. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est à réfléchir. Et du reste, on devrait aussi le réfléchir, par exemple, je vous ai parlé de l'aumônerie militaire dans les armées. Aujourd'hui, nos forces sont engagées. Il y a des soldats de toute confession qui meurent. On ne pourrait pas dire simplement que nous allons faire pour eux une messe aux Invalides. Ça serait ne pas leur rendre hommage, et hommage du sacrifice qu'ils ont fait pour la défense de leur pays.
Alors, vous avez évoqué le président de la République, et notamment François Mitterrand. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'avoir un président de la République en même temps chanoine, et qu'il faut qu'il aille, s'il le veut ou pas, mais on en a eu un qui est parti et qui est allé au Latran.
Là, vous soulevez un autre problème, c'est est-ce qu'on peut rompre avec l'ensemble des héritages historiques? Et donc la tradition qui fait que le président de la République soit en même temps chanoine du Latran est une tradition que certains réactivent et d'autres non. voilà, en la réactivant, je crois qu'on lui donne une force symbolique qui la marque vraiment du côté du non-laïque, alors que d'autres présidents de la République ne l'ont pas fait, tout en ne manifestant pas leur volonté de rupture. C'est-à-dire que on reste dans l'apaisement en refusant de réouvrir un front. Hein, c'est ce qu'a fait par exemple le général de Gaulle, qui n'a pas fait de choses de ce type. Et d'autres réactivent la fracture en allant absolument de manière ostensible, comme on pourrait dire, au latron.
Alors vous avez évoqué le terme ostensible, ça nous ramène à l'histoire d'effets vestimentaires ou de signes religieux ostentatoires ou ostensibles. Si nous avions, le « nous », c'est un « nous » collectif, étouffé ab ovo une histoire de deux fillettes à peine nubiles qui se sont présentées dans un collège omitouflées d'un foulard, nous ne serions peut-être pas en train de parler maintenant de la question du voile, du foulard, etc. Alors comment avez-vous, c'est pour nos amis auditeurs, traité cette question avec Régis Debray ?
Alors, je crois que la loi de 2004 sur les signes ostensibles à l'école est une loi utile. Ça a permis de régler ce qui a d'abord été un conflit interne au monde enseignant. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas directement le politique qui a instrumentalisé cette question. Cette question est d'abord le produit d'une confrontation interne au monde enseignant. Et du reste, le principal du collège de Creil qui lance l'affaire, il est principal, et puis après il va devenir un responsable politique puisqu'il va se faire élire député. La deuxième chose qu'il faut rappeler, c'est que ces affaires naissent pas simplement parce qu'elles portent un voile, mais parce que elles vont refuser d'aller en gymnastique, elles vont refuser certains cours de sciences par exemple, parce que ça heurte leurs croyances. En même temps, il ne faut pas, je crois, étendre cela à au-delà de l'école. C'est-à-dire que l'école a toujours été, dans l'histoire de la laïcité, un lieu particulier de compromis. Et je crois qu'il ne faut pas vouloir... Enfin, d'abord, ce n'est pas... ça a déjà été tranché par les républicains laïcs au lendemain de la loi de 1905. Il ne s'agit pas de régler les codes vestimentaires de tout à chacun dans la rue, dans l'espace public. Donc, et enfin, je crois qu'il ne faut pas... avec les adolescents, interpréter tout signe. Par exemple, la jupe, qui aujourd'hui en débat, me semble pas un problème. Au sens où il ne faut pas cristalliser par une répression excessive toute manifestation d'une crise d'adolescence, parce que c'est le meilleur moyen de l'enquister dans ce qu'on ne veut pas.
Et donc l'école laïque devient un sanctuaire pour les adolescents et adolescentes, pour les lycéens, écoliers aussi, où leur identité elle-même est en construction.
Bien sûr.
Et ne pas ni focaliser, ni cristalliser.
Bien sûr.
Ce qui, en réalité, même chez les pinailleurs, la question du voile n'a pas été un signe, n'est pas un signe religieux. C'est peut-être un symbole, mais pas un signe. Et tout le débat...
Mais le problème du voile, encore aujourd'hui, c'est le fait que, et vous le disiez en introduction de l'émission, les questions autour de l'islam ont une résonance internationale et que depuis la révolution iranienne, il y a autour de ce fichu, comme disait Régis Debray, eh bien, un combat politique qui est mené et dans tous les pays ou dans toutes les zones où on impose le voile, on réduit les droits des femmes. Et le problème, c'est que ça rentre en résonance avec notre mémoire collective où, par exemple, en France, on a eu des femmes qui portaient un foulard encore dans les années 60. Et c'est au moment où on va se mettre en place l'égalité juridique, ce mouvement pour l'égalité juridique entre hommes et femmes, que la pratique du port du foulard va s'estomper. Quand on regarde les films des années 60, on voit ces femmes en foulard. Donc, les deux choses se heurtent.
Oui, et le véritable voile pour une jeune demoiselle est son éducation, son instruction, son acquisition du savoir. C'est comme ça qu'elle sera prémunie, en réalité, pour vivre sa vie. Le reste, sa spiritualité la regarde. Et elle n'est pas obligée, en tout cas, tant qu'elle est dans l'école laïque, de médiatiser cela par un tissu ou par un fichu. Poursuivons, Didier Lesky. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une entrée imam? Il aurait pu en avoir pour curé, au rabbin. Donc, il y a une spécificité à ces liturges ou à ces ministres du culte.
Oui, il y a une spécificité qui est une question, si ce n'est un problème. C'est que les ministres du culte, les imams qui officient en France, pour l'essentiel, ne sont pas formés en France. Non pas que leur formation religieuse ailleurs serait de mauvaise qualité, encore qu'on peut en discuter, mais parce que le lieu de la formation d'un ministre du culte, eh bien, ça a une importance dans la manière dont il va délivrer son message, c'est-à-dire son imprégnation culturelle ne peut pas être découplée de la forme du message qu'il va délivrer. Et la difficulté que nous avons aujourd'hui avec les imams, c'est que l'État, et je dois dire que c'est moi qui ai initié cela, a mis en place des formations civiques pour des ministres du culte musulman, mais il y a quelque chose que l'État ne peut pas faire et que seuls les responsables musulmans pourraient mettre en place, c'est une formation théologique, religieuse. Ici, il y a un cadre juridique qui existe, qui est la loi de 1875 sur les établissements d'enseignement supérieur, qui permettrait de les reconnaître d'utilité publique et de faire un enseignement théologique. Le problème, c'est que nous n'avons pas les formateurs, au sens où l'État ne peut pas les désigner, et qu'il n'y a qu'à l'intérieur du monde musulman où on pourrait avoir la capacité de le faire. Mais c'est une question fondamentale. J'y ajoute, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'Algérie coloniale, le contrôle du culte musulman, que nous avons favorisé une sorte de contrôle voulu par les pays d'origine sur les fidèles musulmans en France, en acceptant que viennent en France des cohortes d'imams payés par l'Algérie, par la Turquie, par le Maroc, donc qui sont d'abord sous l'autorité de leurs employeurs, les imams turcs, ils reçoivent le vendredi, enfin le jeudi soir, le prône de la Diyanette, c'est-à-dire qui part d'Ankara et qui va être le même partout ou spécifiquement pour l'Europe. Et donc nous favorisons ce contrôle et en même temps nous déresponsabilisons les associations culturelles musulmanes, puisque les plus grandes mosquées de ces réseaux, eh bien, les fidèles n'ont pas à payer l'imam, puisqu'il est payé par l'État étranger.
Ça suscite en moi deux réactions. La première, c'est curieux, encore ces pratiques d'envoyer le prône depuis un endroit central, ça rappelle Bonaparte et par la suite Napoléon, quand il disait « Où sont mes évêques, mes gendarmes et mes préfets ?» C'est une circulaire qui n'a rien à voir avec le vécu des citoyens français et des fidèles musulmans en France. Le second point, nous avons besoin, dans notre pays, en France, des imams à l'esprit gallican et qui s'affranchissent de ces tutelles ou de l'ombre tutélaire de ces états tiers et qui continuent à les rémunérer. Donc on est toujours inféodé, fidèle à l'employeur. Mais peut-on les... à l'image de ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la mosquée de Strasbourg, essayer d'avoir un institut de formation d'imams sur des deniers publics dans les départements concordataires, ne serait-ce que d'une manière transitoire?
On pourrait le faire, on a tenté de le faire. La difficulté, c'est d'où viennent les formateurs et comment on peut constituer un corps de formateurs. Voilà. Et donc, depuis... très très longtemps, des réflexions sont menées et on n'a jamais pu aboutir vraiment parce que il manque dans cette affaire à chaque fois un partenaire essentiel. L'État n'a pas la légitimité, je dirais, spirituelle ou théologique pour faire aboutir un tel projet. Et là est la difficulté.
Donc la difficulté finalement est d'initier ou d'initialiser le processus, c'est-à-dire former les formateurs.
Oui.
Et là, on passerait par la case État étranger. Le président Hollande veut les former au Maroc. Le ministre Cazeneuve, il y a un accord avec l'Algérie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir couper ce cordon ombilical.
Je pense que vous soulevez une question essentielle. Jacques Berck avait cette idée généreuse qui était de dire que les fidèles musulmans, les croyants, les spirituels musulmans vivant en France pouvaient, par leur dynamisme, créer un islam des Lumières, et à partir de là, on aurait eu un mouvement inverse. Et c'est ça qu'il espérait, c'est-à-dire qu'on irrigue à partir de cet islam des Lumières de l'autre côté de la Méditerranée. Parce que le problème que nous avons dans ces accords, c'est que ils acceptent comme lieu de formation des pays, des entités culturelles dont le dynamisme interne est celui d'une disparition progressive de l'altérité, de la différence, hein, et des formes de régression, et qui ont des impacts culturels très forts. Et c'est ça la difficulté, et sans doute le drame un peu en ce moment du monde musulman, qui a été un monde extrêmement brillant, qui a été un monde d'accueil. Hein, quand en Europe on avait l'Inquisition, les Juifs traversaient la Méditerranée pour aller se réfugier de l'autre côté. Aujourd'hui, nous avons des confessions musulmanes diverses qui ne peuvent survivre dans certaines zones que si elles quittent ce monde et ces terres d'islam.
Et comme le ciel est un peu plus clément, et même beaucoup au-dessus de leur tête, et notamment en Europe et dans les pays démocratiques, même si la démocratie est un point à l'horizon vers lequel nous tendons tous et que c'est une promesse, eh bien c'est d'ici et sous ces cieux-là que ce travail de refondation de la pensée théologique, de réforme, pour revenir au-delà de la formule de l'islam des Lumières, mais en tout cas une tradition de beauté, d'intelligence, d'ouverture, et notamment sur l'altérité confessionnelle, ce qui malheureusement n'est pas le cas en contexte islamique maintenant. Et c'est pour ça qu'il faut que les imams français soient pétris de valeurs et du patrimoine et de l'héritage, notamment français, c'est le leur, celui de leur pays, et qu'ils cessent d'en importer. Toujours dans I, la lettre I, il y a injure sous-entendu aussi blasphème, qui dans son étymologie c'est aussi une forme d'imprécation et d'injure. Alors pourquoi avez-vous abordé ce point ?
Parce que, bien évidemment, nous défendons avec Régis la liberté totale, si vous voulez, de critique et de critique des religions. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre cette liberté de critique des religions avec une attitude qui parfois peut être blessante vis-à-vis du croyant. Voilà. Et il peut y avoir une injure qui blesse un croyant, alors que et qui peut être, je dirais, un excès de la liberté, si vous voulez, de critique. Voilà.
La réaction doit être, là, ce que vous dites, c'est sur un plan éthique et de sentiment fraternel, mais d'un point de vue juridique, en dehors des départements concordataires, il y a le droit au blasphème.
Ah, mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Non seulement il y a le droit au blasphème, mais parfois même un devoir au blasphème.
Enfin, je ne plaide ni dans un cas ni dans l'autre. C'est simplement rappeler ce point. L'important, c'est que les croyants n'aient pas à être blessés dans leur foi. Si ça devait être le cas, il y a des manières civilisées et juridiques de réagir, et surtout pas par la violence ou pas sous d'autres formes aussi excessives.
Bien sûr.
Didier Leschi, poursuivant encore maintenant avec la question de prétoire, je vais à la lettre P. Où est le lien entre le prétoire et les questions laïques ?
Ça, c'est une réaction aussi parfois à des excès de la laïcité, si vous voulez. La laïcité peut avoir comme ennemi certains zélateurs, voilà, et donc une personne qui se présente dans un prétoire, elle est jugée en tant que ce qu'elle est, si vous voulez, et donc on ne peut pas lui demander de se dépouiller absolument au-delà du fait que on doit pouvoir voir son visage, hein, pour pouvoir savoir si on juge bien la personne ou pas. Voilà, c'était un peu ça notre idée. Il y a plusieurs entrées comme ça, où aussi sur le bureau de vote, hein, puisqu'on a vu, par exemple, des responsables de bureaux de vote refuser à telle ou telle personne de voter parce qu'elle aurait un signe distinctif religieux. Le curé peut voter, la femme voilée peut voter, la personne qui porte une kippa peut voter.
En revanche, si elle était voilée intégralement, on ne peut pas savoir qui vote.
Oui, et dans c'est autre chose.
De mon point de vue, on s'était un peu noyé dans un verre d'eau. Au lieu de promulguer toute une loi, il suffisait simplement de rappeler qu'en dehors des carnavals, la République se vit à visage découvert. Or, le carnaval est circonscrit dans le temps et dans l'espace.
Oui, c'est vrai.
Alors, Didier Leschi, il y a quelque chose qui relève à la fois de la spiritualité, aussi de la métaphysique, et d'approche éthique et bioéthique. Ce sont naissance et mort. Donc, oui. Il y a N et M avant. Ça aussi, vous le placez sous la voûte commune de la laïcité?
L'article vient du fait qu'on a de plus en plus de conflits à partir d'un phénomène qui, à mon avis, est une bonne chose, qui sont les mariages mixtes ou les couples mixtes. Et avec, est-ce que on peut ou non être enterré ensemble? Et on a une pression parfois du religieux, et vous avez rappelé tout à l'heure que ce n'était pas un prédicat de l'islam que d'être absolument enterré ensemble, qui est de dire, il faudrait exclure tel ou tel du voisinage de son conjoint parce que son conjoint a choisi d'être dans un endroit où il n'y a que des tombes de telle ou telle confession. Voilà. Et donc, on pense que là, il faut travailler ces questions, faire un compromis et dire s'il y a acceptation par l'un des époux qu'il n'y ait pas, ou de conjoint qu'il n'y ait pas de signes distinctifs, on peut arriver à garder autour du carré son identité propre. Ce sont des questions très délicates et qu'il faut, je crois, travailler avec soin. L'idée de cet article, c'est de dire qu'il ne faut pas trancher dans le vif sans quand même essayer d'abord de trouver les solutions qui organisent la paix civile. Et que tout ne doit pas être l'objet d'un affrontement porté à l'incandescence, et en particulier dans ce qui sont les moments symboliques, la naissance, la circoncision, la mort, la sépulture.
Bon, finalement, la laïcité, encore une fois, est un principe juridique qui permet l'organisation et la cohabitation des sacrés.
Absolument.
Il y a une entrée sous la lettre S, secte. Bon, la boutade classique veut qu'une religion est une secte qui a réussi. Alors, sous quels critères l'autorité publique ou les pouvoirs publics peuvent dire que tel mouvement est de type sectaire ou c'est déjà le noyau ou la naissance d'une tradition religieuse? Avec le respect absolu que j'ai pour les religions, c'est un peu la métaphore de l'embryologiste ou du zoologiste qui s'intéresse aux batraciens. Il ne sait pas quand le têtard devient grenouille. Donc là...
Mais c'était une manière de... Cette entrée est une manière aussi de dire que si la République ne reconnaît aucun culte, elle n'en méconnaît aucun. Et qu'il n'y a pas à avoir une analyse ou une appréciation substantielle du contenu de la religion et la secte, s'il en existe, d'abord, ou des mouvements sectaires ou des dérives sectaires, ça peut toucher tous les cultes, et c'est la mise en cause de l'intégrité physique ou morale d'une personne. C'est la seule définition possible de la secte, c'est-à-dire quand on rentre dans quelque chose où on ne peut plus sortir, ou si on en sort, on est poursuivi par ses anciens condisciples et où on vous a martyrisé, dépouillé, etc. Et donc, il faut rappeler cela pour dire qu'il n'y a pas de catégorie de religion reconnue et donc il n'y a pas de définition juridique de la secte. Il peut y en avoir une sociologique et pas juridique. Et du reste, c'est parce que les pouvoirs publics ont parfois mal jugé cela que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans le cadre d'un long contentieux avec les témoins de Jéhovah pour entrave à la liberté de religion. Et aujourd'hui, les témoins de Jéhovah, que d'aucuns considèrent par exemple comme un mouvement sectaire, les témoins de Jéhovah ont des aumôniers et à ce titre-là, puisque l'aumônerie est une forme de reconnaissance pour le coup, au moins financière, eh bien, sont reconnus par les pouvoirs publics. Mais je pense que c'est important qu'on rappelle cette idée que notre régime laïque, il ne reconnaît aucun culte, mais il n'en méconnaît aucun, et donc il protège la liberté de conscience de tous.
Et donc le critère discriminance est le respect absolu et scrupuleux de l'intégrité physique et morale des citoyens dans quelques mouvements qui se trouvent, et si ça devait être altéré, donc ça tombe sous le coup de la loi.
On pourrait dire par exemple que la pédophilie dont on parle actuellement est une dérive sectaire, au sens où ça a mis en péril l'intégrité, l'intégrité physique et morale d'enfants.
En revanche, on ne peut pas réduire le radicalisme de type djihadiste uniquement à une approche de type sectaire.
Non, mais on pourrait dire que c'est une forme de dérive sectaire de l'islam.
Et donc il faudrait déradicaliser, donc faire sortir ces individus des sectes.
Mais en même temps, c'est une manière de dire que la dérive sectaire, ce n'est pas l'essentiel d'un message religieux, mais ça peut être la déformation d'un message religieux.
Alors nous arrivons au terme de notre émission. Il y a pour l'entrée Z, zélateur ou excès de zèle.
Excès de zèle.
Et alors pourquoi vous avez voulu finir avec ça?
Justement parce que, pour rappeler que la laïcité c'est un cadre dont le principe fondamental c'est de protéger la liberté de conscience de tout un chacun. Et que l'excès de zèle aboutit par exemple à cette idée que le fait religieux devrait être simplement celui de l'espace privé, alors qu'en réalité, c'est l'exercice public du culte qui est codifié par des règles juridiques. Et donc, les zélateurs, je crois, méconnaissent ce principe laïque. Je dirais que la religion est malgré tout une opinion comme une autre, et de la même manière qu'on peut manifester ses opinions politiques ou syndicales, on peut manifester dans l'espace public son opinion religieuse, dès lors qu'on n'en fait pas un principe qui fait que tout devrait être réduit à l'acceptation du principe religieux.
L'excès de zèle, là, que vous fustigez, peut-être du côté, je ne trouve pas d'autre mot, des laïcards, mais l'excès de zèle aussi des croyants ou des hommes de religion est aussi à mettre dans les mêmes considérations.
Je suis d'accord, nous le faisons aussi. Il ne faut pas oublier l'équilibre entre les deux. Et parfois, on a tendance à l'oublier. Bien sûr, il y a un excès de zèle d'une demande religieuse excessive et qu'on voit, et dont l'islam, malheureusement, à partir de l'islam, beaucoup de gens en sont porteurs, et c'est dommage.
Et donc, l'important est trouver de l'équilibre, une balance, et le mot revient, et ce n'est pas qu'un simple exercice de style, vivre en harmonie et d'une manière apaisée.
Absolument.
Eh bien, merci infiniment.
Merci à vous.
Didier Lesky. Je rappelle que vous êtes en charge de la direction générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vous êtes un fin connaisseur de ces questions-là, puisque vous étiez le chef du bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur. Vous êtes historien vous-même et juriste, et vous avez coécrit avec Régis Debré ce guide pratique, La laïcité au quotidien. Vraiment, c'est un inédit. Et il est édité chez Folio.
Merci.
Merci Didier Lesky. C'était Culture d'Islam par Al Bencher, et aujourd'hui, nous avons reçu le préfet Didier Lesky. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est toujours Dominique Competissa. La prise de son est assurée aujourd'hui par Manuel Couturier et la réalisation par Franck Lilin.